Victor Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le metteur en scène d'un spectacle qui est diffusé à Avignon pendant tout le festival. Un spectacle qui est assez original parce qu'il est en deux parties, deux pièces, une peut-être un peu plus courte que l'autre et l'autre plus dense, j'allais dire. Deux pièces qui mettent en scène chacun un trio, deux hommes, une femme.
Oui, tout à fait. Oui, en fait, tout début, les spectacles, il y a deux écrivains qui sont mis d'accord sur un seul thème. Donc après, chacune a écrit une pièce de son côté pour former un seul spectacle. Donc les fils conducteurs des deux pièces, c'est l'utilisation de la sexualité et la sensualité humaine, soit pour détruire l'autre, pour me autodétruire, ou essayer de construire autre chose de ma vie.
Donc chaque spectacle, c'est un auteur différent qui l'a écrit ?
Tout à fait. La première pièce s'appelle Escaleno. Mm-hmm. C'est le triangle qui a les tous côtés inégaux. Mm-hmm. Cette pièce, c'est de Gabriel Inclán. Mm-hmm. La deuxième pièce est Chassé des papillons. C'est de Antonia Valle. Mm-hmm. Tous les deux, c'est de la génération des années 60. C'est des féministes qui ont mis son talent au service du théâtre.
Alors, curieusement, ces deux spectacles ont également un thème transversal qui est l'homosexualité masculine.
C'est, en fait, l'homosexualité, le lesbianisme, c'est pas le thème principal de les pièces. Donc, c'est des moments, c'est des sujets que les écrivaines abordent pour pouvoir faire que tout le monde puisse visualiser assez clairement comment tous ces désirs sexuels peuvent transformer l'être humain.
Et je dois dire que transformer dans le sens où tous ces personnages sont victimes ou peut-être volontaires de la domination de l'autre.
Oui, mais c'est pas parce qu'il est homosexuel ou elle est lesbienne qu'elle est dominée. C'est plutôt parce que les personnages ne s'assument en tant qu'un être humain complexe, qui peut prendre un chemin sexuel quiconque, qui, peu importe les regards de l'autre, ce qu'importe, c'est que moi je puisse assumer ce que je suis et comprendre ce que je suis pour ensuite pouvoir continuer à marcher. Donc ce qui se passe, c'est que dans la première pièce, les personnages de Gilberto, à la fin, ils refusent cet chemin qu'il a envie d'emprunter pour vivre, pour devenir lui-même. Donc il les refuse. Donc il reste dans une espèce de nuage où il n'arrivera jamais à être ce qu'il est vraiment, un être complexe et beau, peu importe les tendances sexuelles. Ça, c'est uniquement des petites remarques qui se font pendant la pièce.
Mais curieusement, chaque personnage, à un moment, domine l'autre ou les autres. Il y a un changement permanent, j'allais dire, de rôle et d'importance du personnage dans chaque rôle.
Oui, là, il y a une petite différence. Dans la première pièce, le seul personnage qui s'assume en tant que lui-même, qui sait qu'il est, c'est le personnage d'Antonio. Donc c'est ça qui lui donne le pouvoir. Donc comme il sait qu'il est, il peut dominer les autres. Il peut jouer cette espèce de des relations de pouvoir, de maintenant je vais te dominer, je vais jouer avec toi. Les autres deux personnages, ils sont attachés à un port de la solitude, un port de ce qu'ils sont. Donc c'est ça qui les faiblisse face à Antonio. Dans la deuxième pièce, c'est une relation trop complexe des relations homme-femme. Qu'avant là, nous entrons dans des zones assez obscures de l'être humain. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons des fantasmes ou des fantômes ou des rêves érotiques, mais que malheureusement on ne peut pas réussir à que ces rêves, ces désirs deviennent vraiment quelque chose d'érotique et pas thanatique. Donc
dans le deuxième spectacle, dans la deuxième pièce, j'allais dire, à un moment donné, on ne sait plus s'ils jouent ou s'ils sont dans une réalité. C'est très flou, la frontière.
Oui, ça c'est une chose qui est assez complexe de la chasse des papillons. Mais moi, quand j'ai lu la pièce en espagnol, j'ai dû la lire deux fois parce que c'est une ligne très très fine qui les divise. Donc, mais peu à peu, on commence à trouver des pistes qui nous éclaircissent. Déjà, il y a la deuxième scène où le personnage de David, qui c'est le gigolo, il dit « Bon, maintenant, on va jouer à être une famille. » Donc là, on commence à prendre des pistes. Donc, avec la mise en scène, ce que j'essayais de faire, c'est de donner un atout de plus, un outil de plus au spectateur, que c'est avec des petites variations de lumière, pour faire un peu, pour marquer un peu plus les changements de la réalité au rêve.
Mais à un moment, la femme, on a l'impression qu'elle veut qu'il sorte du jeu et lui revient au jeu en disant « tu es ma mère » alors que...
Oui, parce que ça c'est une chose. C'est, là, ce personnage d'Elena, elle a deux options. Et la première chose, elle a trouvé un jeune homme capable d'égaler Raoul, donc capable de l'égaler. Mais la relation qu'elle établit avec lui, ce n'est pas une relation de domination, comme la relation qu'elle a avec Raoul, avec son père. Donc ce qui l'intéresse dans ce jeune homme, c'est précisément c'est qu'avec lui, il n'aura plus cette confrontation éternelle. Donc elle lui dit, moi j'aimerais partir avec toi. Donc là, il est face à deux choses. Soit je pars avec lui, soit j'y vais face à Raoul. Donc elle essaye de séduire le jeune homme pour pouvoir s'échapper avec lui. Lui, il refuse. Donc la seule solution qu'Elena trouve, c'est de fabriquer un jeu pour qu'à la fin, Raoul, son père et en plus son mari, soient tués.
Alors le spectateur là-dedans, il est quand même pris aussi au piège, quoi. Il ne sait plus, il flotte dans l'univers.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est une chose que je trouve assez intéressante parce que avec une pièce comme ça, ça sera vraiment ce que le spectateur va prendre pour lui. Donc moi, je vois ça. Donc moi, je reste sur ça parce que c'est la chose qui m'a parlé de plus. Donc dans la deuxième mise en scène, en fait, j'essayais de faire une mise en scène assez neutre. Ça ne prend parti pour aucun personnage, mais simplement d'essayer de montrer un fait. Et comme ça, le spectateur pourra prendre parti pour un ou pour l'autre. Ou même, pourquoi pas, refuser. C'est tout à fait normal qu'une personne qui assiste à un spectacle, que c'est un peu fort, je les trouve violents, pas choquants, mais bon, puisse dire non, ça me gêne vraiment. Mais alors là, la question c'est qu'est-ce que ça gêne au spectateur ?
On a quand même l'idée que ces deux spectacles vont au bout du désir. On va loin dans l'expression et dans la visualisation de l'expression.
Oui, mais pour que ça devienne vraiment le désir, ça ne doit pas être pornographique. Donc la seule façon que j'ai trouvé, de toute façon pour moi, c'est le seul moyen de montrer soit des nus, soit des carrés sur scène, c'est assumer la propre sensualité, la sensualité propre au corps humain. Donc, si nous acceptons notre propre sensualité, nous pouvons montrer avec un seul geste, avec un bisou, tout l'âme de l'être humain. Et ça ne deviendra pas pornographique ou choquant. Parce que c'est le corps. Alors après, c'est la relation que chacun a avec son propre corps. Donc moi, je connais des gens qui sont assistés à un spectacle ici que c'est juste sur Avignon aussi, pour le festival IN. Ils se sont trouvés une scène hyper choquante. Il y avait un jeune garçon qui s'est masturbé sur scène. Donc moi, je n'ai pas vu le spectacle. Mais si les choses marchent en accord avec les textes, si les choses ne sont pas justifiées, je pense que ça peut être clair et beau.
Alors, donc là, on a un aperçu du théâtre contemporain mexicain où vous disiez ce sont des écrivains, des femmes qui ont, je vais dire, 50, 40 ans maintenant.
40 ans, presque la cinquantaine. Presque la cinquantaine. C'est des écrivaines assez connues, surtout Gabriel Inclán. Marie-Antonia del Valle, ou Antonia Valle, elle est très connue, mais les sujets qu'elle aborde touchent un certain public, les sujets que Gabriel Inclán aborde touchent un autre public. Mais tous les deux sont des gens assez importants, ça appartient à la nouvelle génération. Les pièces Escaleno, c'est une pièce qui a été écrite dans les années 80, et Papillon a été créé dans les années 90.
Et ces spectacles-là sont joués actuellement au Mexique ?
Non, la compagnie, ce qu'ils essayent de faire, c'est toujours des créations. Toujours des créations. Déjà, première chose, pour C'est pas question de promouvoir, mais c'est question de montrer l'avancée de la culture, de la littérature théâtrale dans l'Amérique latine.
Et votre compagnie, vous comptez jouer ce spectacle là-bas, en Amérique latine ?
En Amérique latine, non. Non, non, non. Pour le moment, j'ai un visage en mesure de le possible. Mm-hmm. Trouver un producteur ou un directeur de salle ou un programmateur qui puisse nous soutenir pour le projet et continuer à montrer ces pièces que je trouve assez intéressantes et qui dénichent un petit côté obscur de l'être humain que parfois nous ne sommes pas capables ou peut-être nous ne sommes pas dans les bons moments pour le dévoiler.